RCF.
Dans notre société occidentale post-moderne, les religions n'ont plus la cote, mais par contre, le spirituel est à l'honneur. On ne vante plus les vertus de la prière, mais celles de la méditation laïque, débarrassée de tout contenu religieux. Dans ce contexte, on sent bien que la quête spirituelle existe. Alors, est-ce que la tradition judéo-chrétienne peut-elle encore répondre aux aspirations de nos contemporains? Comment retrouver le goût de la prière chrétienne? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre avec Bertrand Vergely. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes philosophe orthodoxe, que vous avez fait paraître de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est un dictionnaire philosophique et savoureux du bonheur paru chez Milan. Comment vous expliquez la soif d'intériorité de nos contemporains ?
J'explique cette soif d'intériorité tout simplement parce qu'elle est absolument vitale. Nous avons trois besoins. Le premier besoin, c'est un besoin physique, matériel, de subvenir aux nécessités de notre existence. Le deuxième besoin est un besoin d'identité personnelle et de reconnaissance à l'intérieur d'un contexte social où nous avons besoin d'amitié et en même temps de gratification, de partage avec autrui, d'expérience sentimentale. Et nous avons besoin également de quelque chose de plus profond, qui est l'expérience spirituelle. Nous ne pouvons pas étouffer en nous le souffle de l'esprit qui nous appelle.
Comment vous définissez ce qu'est la vie spirituelle ?
Je vais débuter par un paradoxe. Je crois que la vie spirituelle est une vie matérielle transfigurée. Je m'explique. Dans la tradition orthodoxe, l'être humain est corps, âme, esprit. Le corps renvoie à la dimension matérielle de l'existence et à ce qui nous est donné à travers l'évolution dont nous sommes la récapitulation. L'âme est l'aspect personnel, constructif de nous-mêmes. L'esprit, c'est la rencontre qui se fait entre l'âme et le corps. Je crois que nous sommes dans la dimension spirituelle lorsque l'âme retourne dans le corps pour découvrir de l'intérieur du corps un autre corps qui est ce que je pourrais appeler le corps du corps, la matière de la matière.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le spirituel, ce n'est pas du tout désincarné, c'est complètement incarné.
Exactement. Je crois qu'on ne comprend rien au spirituel si nous croyons que celui-ci consiste à s'évader du corps et de la matérialité, c'est exactement l'inverse. L'expérience de l'esprit est une expérience que l'être humain fait de toute sa chair lorsqu'il habite son existence et qu'il se laisse habiter par cette expérience d'habitation qui est une expérience de profonde présence. Quand est-ce que nous découvrons la dimension de l'esprit ? Nous découvrons la dimension de l'esprit quand nous nous rendons compte qu'il y a le corps, qu'il y a l'âme et qu'il y a la présence qui est le lieu de rencontre entre l'âme et le corps et qui donne cette expérience à la fois charnelle et personnelle mais en même temps transcendante qui dépasse le corps et l'âme sans les annihiler. Donc l'esprit, c'est une expérience extraordinairement concrète et charnelle.
Et on en fait l'expérience tous les jours, si on le veut. Comment ça se manifeste ? Donnez-nous des exemples.
Eh bien, l'expérience de l'esprit se manifeste de trois manières. La première manière, c'est l'expérience de l'être, du rayonnement, qui nous permet d'avoir de véritables communications les uns avec les autres. Nous apercevons que partout, dans la vie quotidienne, nous avons besoin de personnes qui sont présentes, qui rayonnent, qui donnent quelque chose et qui permettent vraiment de communiquer.
On voit ça avec les visages notamment.
On s'aperçoit de cela avec les visages. On s'aperçoit dans la réalité des entreprises. Pour qu'il y ait une communication qui réussisse, il faut qu'il y ait des êtres qui soient de bons communicants. Et les êtres sont de bons communicants quand ils sont là, quand ils sont présents, quand ils sont incarnés. Ça, c'est l'expérience première de l'être. La deuxième expérience, c'est l'expérience de l'intelligence qui est liée à ce rayonnement. Nous disons de quelqu'un qui a de l'esprit que celui-ci est capable de s'adapter, il a de l'à-propos, il trouve la bonne réponse au bon moment, et donc il fait preuve d'esprit. Les êtres qui sont doués d'esprit sont capables d'une extraordinaire agilité, parce que justement ils sont capables d'habiter le moment présent. Et le troisième point, les expériences d'esprit sont des expériences assez proches du rire et de l'humeur, de l'humour, qui sont capables de désamorcer les conflits et là où les êtres étaient amenés à se diviser, à se rassembler et à se réconcilier. Donc nous dirons que quelqu'un est un être spirituel quand il est rayonnant, quand il est vif et intelligent et quand il a cette vue supérieure des choses qui fait qu'au lieu que nous nous disputions, nous arrivions à nous réconcilier.
Bertrand Vergely, nous parlons de la vie spirituelle. Alors, vous avez décrit un homme spirituel qui peut aller venir sans religion. Toutes les caractéristiques que vous nous avez données se trouvent là, dans des champs qui ne sont pas forcément religieux.
Alors, justement, c'est le propre de la religion que de révéler l'expérience de la vie quotidienne et de l'amener à un point supérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, il est important d'habiter les choses. Il est important d'être intelligent. Il est important de nous libérer des conflits. Mais pour vraiment nous libérer en profondeur et arriver à la présence, à l'intelligence et à l'amour, il faut un peu plus qu'un esprit ordinaire. Il faut rentrer dans les profondeurs de l'esprit. Et les profondeurs de l'esprit, c'est ce que va nous donner l'expérience religieuse, laquelle nous relie à plus haut que nous et plus vaste que nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience spirituelle en un deuxième sens ? C'est la véritable expérience de la présence, de l'intelligence et de la réconciliation.
Et ça, en milieu chrétien, c'est une rencontre qui nous permet de vivre ça.
Tout à fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, je commence à pouvoir me situer dans cette expérience de l'esprit profond. Lorsque j'ai une véritable conscience de l'existence. Quand je rentre dans l'être de mon être et que je découvre de l'intérieur de l'être de mon être un « tu » qui veut que je sois « je ». Là, nous avons ce qu'on appelle un éveil spirituel. Et cet éveil spirituel, c'est lui qui va m'amener à la conscience du rayonnement, à la conscience de l'intelligence, à la conscience de la réconciliation et du dépassement des conflits. Pour moi, un être spirituel, c'est quelqu'un qui a vu Dieu. C'est quelqu'un qui a vu cette source de vie débordante, qui n'est pas simplement une source de vie impersonnelle, mais qui est une source de vie personnelle et qui parle en moi en voulant que je sois moi, que je sois pleinement moi. Donc, elle va m'inspirer et cette inspiration va me permettre de faire respirer.
Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que beaucoup de personnes peuvent avoir peur de Dieu ou de la religion se disant c'est une dépersonnalisation. Or vous dites ça va me rendre encore plus moi-même.
Mais bien sûr, tout d'un coup, nous sentons en nous la beauté, l'intelligence, la profondeur de la présence, de l'intelligence et de l'à-propos, de la réconciliation. Et puis, nous faisons une expérience spirituelle. Nous voyons ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a cette rencontre inouïe d'un autre en moi qui veut que je sois moi. Alors là, je crois que nous sommes justement dans la dimension de la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne ? C'est plus qu'un individu. Je suis dans la dimension personnelle lorsque je ne suis pas dans l'individu, mais dans l'être de mon individu. Et que, je dirais d'être à être, j'ai un être autre qui m'inspire de l'intérieur. Je pense que vous et moi, nous avons tous rencontré en nous cet autre qui se réjouit quand nous agissons bien et qui s'attriste quand nous agissons mal. Nous avons rencontré cet autre qui nous prévient à l'avance des dangers qui sont les nôtres. Nous avons rencontré cet autre sous la forme de la part géniale, intuitive, merveilleuse qui nous donne les belles idées, les belles images, les possibilités créatrices qui sont les nôtres. Voilà ce que j'appelle l'expérience de Dieu, expérience profondément spirituelle. Et c'est une expérience qui se branche en nous à partir du moment où nous commençons à agir en elle. Vous voyez, je suis parti d'une réalité non religieuse pour aller vers la réalité religieuse, car il est très important de respecter les étapes. Je pense que si nous n'avons pas connu le non-religieux, nous ne pouvons pas connaître le religieux. Et ensuite, nous l'approfondissons et nous voyons sa profondeur.
Et donc, dans ce contexte, la prière, c'est être en contact avec cet autre, tout autre, à l'intérieur de nous-mêmes.
La prière est l'expérience de la demande. Prier, c'est demander, c'est inviter. Lorsque j'ai fait en moi l'expérience de cet autre qui veut que je sois moi, mais je l'invite. Je veux qu'il vienne à ma table intérieure. Je veux qu'il devienne mon hôte. Et je le supplie d'être le plus possible à l'intérieur de mon existence, tellement cette existence autre est savoureuse, bénéfique, salvatrice, lumineuse à l'intérieur de notre existence. Je ne peux plus m'en passer. L'expérience de la prière, c'est l'expérience d'une brûlure, d'un feu merveilleux, en contact avec une source qui nous désaltère et nous vivifie.
Bertrand Vergely, nous avons vu que l'être humain n'est pas un animal comme les autres puisqu'il est habité à l'intérieur, il y a une dimension spirituelle, il y a même un autre, un tout autre qui veut le rejoindre à l'intérieur de lui. Que nous dit la Bible sur cet homme spirituel et notamment le récit de la Genèse ?
Alors il faut se rappeler que dans la Bible, l'expérience de la spiritualité est liée au souffle. Un grand jésuite, Marcel Jousse, s'est intéressé à la culture araméenne qui a été la culture du Christ et s'intéressant sur les structures anthropologiques de la culture araméenne, il a vu que toute la culture araméenne est fondée sur la notion de transmission comme la culture juive. La transmission, Dieu ne garde pas la vie pour lui, il la donne et il va au-delà de lui pour créer d'une part la création et puis pour engendrer son fils. Donc il y a, nous pourrions dire, une double création, création de Dieu en Dieu à travers le Père, les Fils et l'Esprit, et création de Dieu hors de Dieu à travers la création du monde et de l'homme.
Et son souffle qui nous irrigue.
Alors, le Dieu est trinitaire et il est le parlant, la parole et le souffle. Le Davar, le Memra et le Roi. Alors ce qu'on appelle le souffle, c'est le Roi. Et le souffle manifeste l'accomplissement de la transmission. Alors, qu'est-ce que c'est que le souffle, l'esprit ? C'est ce qui se passe quand un autre que le Père devient Père. Et même, nous dirions, un autre que le Fils devient Fils. Un autre que le Père devient Père et c'est le Fils. Et un autre que le Fils devient Fils et c'est l'esprit. Et nous rentrons un moment dans quelque chose qui va par le Père et le Fils au-delà du Père et du Fils. Nous sommes là dans quelque chose, un processus en expansion inouïe, magnifiquement décrit par la divine Trinité. Et je crois que nous le voyons bien, tout le récit de la Genèse est un récit spirituel avec en même temps le problème majeur de la spiritualité que nous appelons la chute.
Alors effectivement, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam le glaiseux va se voir insuffler un souffle divin en lui-même. Et puis ce récit qui nous dit que ça ne va pas se passer bien, la chute, le fruit défendu.
Voilà, alors de quoi est-il question ? Effectivement, l'homme est créé dans le souffle de Dieu, à l'image de Dieu, pour la ressemblance avec Dieu. Le but, c'est la ressemblance. Et il est mis à un moment, homme créé, mâle et femelle, au milieu du jardin d'Éden, au milieu de tous les arbres, avec la recommandation, non pas l'interdit, de ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mon interprétation est la suivante. Pour connaître, pour pouvoir juger des choses et connaître le bien et le mal, il faut avoir fait le tour de tout l'univers. Il faut tout connaître. L'homme pourra un jour juger des choses comme Dieu juge, mais auparavant, il faut qu'il y ait tous les temps qui s'accomplissent. Et donc, il lui est demandé de ne pas consommer tout de suite du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de ne pas précipiter les choses. Pourquoi ? Parce que lorsque l'homme utilise le jugement et la connaissance du bien et du mal, qui est la connaissance suprême, sans avoir été initié et préparé à cela, il connaît le bien et du mal au sens dévalué du terme. Le bien et le mal, c'est l'individu tout seul qui appelle bien ce qui est conforme à lui-même et mal ce qui nuit à lui-même.
Donc c'est très subjectif.
Donc là, c'est très subjectif, très relatif, très anthropocentriste et anthropomorphique. Et ceci génère des catastrophes, c'est-à-dire tout l'égoïsme humain vient de nos projections subjectives qui fait que nous fermons le devenir en jugeant ainsi. D'autant plus que les jugements sont très importants pour nous. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'une représentation de l'univers pour pouvoir agir. C'est notre mode d'être, nous qui sommes des êtres symboliques qui vivons en donnant du sens à ce que nous vivons. Et si nos jugements sont pollués, nous apercevons que toutes nos actions sont polluées. Alors que se passe-t-il ? Il se passe, je crois, quelque chose d'intéressant et de fondamental. C'est que Adam ressent la recommandation divine comme un interdit, une violence que Dieu lui inflige, alors qu'au contraire, ce manque est créateur.
Et lui pense que Dieu lui cache quelque chose, et que c'est jaloux, un adversaire.
Et c'est un adversaire qui est jaloux de lui et qui a tout voulu garder pour lui. Or, c'est exactement l'inverse. Dieu veut la réalisation de l'homme, mais la réalisation de l'homme doit passer à un moment par un moment d'attente, de souffrance, entre guillemets, c'est-à-dire de frustration, de ce que veut dire l'être doit être en souffrance, c'est-à-dire en attente avant sa réalisation, et donc tolérer un certain vide. Et nous voyons ici l'Adam qui ressent une terrible frustration, une terrible angoisse, un terrible moment de solitude et se révolte contre Dieu. Et donc, à un moment, procède au contraire de ce qu'il est appelé à vivre. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'expérience spirituelle ? Souvent, bien, nous n'en faisons qu'à notre tête, dans un état de solitude et de désespoir, et nous rentrons dans un état de mort et de souffrance.
Bertrand Vergely, ce que vous avez décrit là, ce récit mythique de la Genèse, en quoi nous concerne-t-il encore, hommes et femmes du XXIe siècle, qui souhaitons vivre la vie spirituelle, nous l'avons déjà dit.
Je pense que tout être humain commence sa vie à l'envers. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le péché originel de l'être humain. C'est-à-dire que tout être humain va dans son ego et juge du monde à partir de lui du bien et du mal, avant de s'apercevoir qu'il faut passer par un autre jugement pour pouvoir commencer à avoir une connaissance de l'existence.
Le Christ dit « ne jugez pas ».
Et nous faisons exactement l'inverse. C'est-à-dire, nous commençons la vie par la fin, au lieu de la commencer par le commencement, nous vivons à l'envers. Mais c'est inévitable, quand on est un être humain, d'en passer par là. Autrement dit, parce que tout être humain a un ego et ne peut pas immédiatement se libérer de cet ego. Et donc, il commence à juger des choses par lui-même, à se couper de ses sources divines et à inverser, sans qu'il s'en rende compte, tous les processus de la création, avant de connaître l'expérience de la mort et de la souffrance et d'être amené à changer. Sauf si, dans la tradition de l'Église, nourrie, inspirée par la tradition des saints et de la prière, il peut à un moment faire l'économie de cette souffrance et à un moment vivre la connaissance et le devenir auquel il est invité.
Quand on prend ces récits, ils sont magnifiques parce que l'homme créé à l'image et pour la ressemblance vis-à-vis de Dieu, c'est incroyable. Il y a le psaume 8 qui dit « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couvrant de gloire et d'honneur. »
Et je crois que dans ce psaume, il est dit « Mais qui donc est l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Vous voyez, donc il y a là quelque chose de magnifique.
C'est insensé quand même de penser que Dieu nous veut partenaire, co-créateur.
Mais vous avez tout à fait raison, c'est absolument inimaginable. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, un, de ce que peut être Dieu et de l'amour et de Dieu et de ce à quoi l'être humain est promis. Si nous nous avions conscience, nous aurions honte de vivre comme nous vivons. Nous serions sidérés, renversés, tellement les perspectives qui nous sont offertes sont absolument faramineuses.
Mais quand on est aujourd'hui, au XXIe siècle, sur la Terre, homme faillible, fragile, vulnérable, et qu'on se dit Dieu me souhaite, me désire, c'est vertigineux. Quel sens prend la vie quand on fait cette découverte-là?
Écoutez, c'est que y a avant et après. C'est-à-dire, vous avez dans l'existence, d'une part, l'existence telle qu'elle se déroule aujourd'hui, où les êtres humains sont dans une grande angoisse, même s'ils profitent des bienfaits de la civilisation technique et matérielle, ils ressentent partout les limites d'une existence qui n'est pas vivifiée par le Verbe divin. Et donc, ils ont un sentiment d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, d'angoisse, et ils ne voient pas très bien le sens de leur existence et ils désespèrent de la société et de l'homme. Jusqu'au moment où, à travers diverses rencontres et circonstances, une mutation s'opère et une autre vie commence. Alors quand on est avec l'expérience de Dieu, c'est un autre monde qui s'ouvre. Et tout d'un coup, tout ce qui nous angoissait ne nous angoisse plus, nous partons ailleurs.
Mais ça se présente pour chacun d'entre nous, qui que l'on soit, on peut faire au fond de son cœur cette rencontre.
Absolument. Je pense que tout être humain, ou bien dans ce monde, ou bien après la mort, parce que je crois que tout ne se joue pas dans le monde, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, dans la tradition occidentale, le purgatoire, c'est-à-dire cette expérience intermédiaire entre le jugement final et d'autre part notre vie, mais je crois à une évolution profonde. Je pense que ça, c'est très personnel. Je pense que nous sommes, tout est appelé, tout est fait pour que nous devenions des êtres spirituels. Et je pense que dans le monde, rien n'est inutile. Tout prend son sens à l'intérieur de cette expérience et chacun a son temps. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas accéder à cette connaissance dans l'état où elles sont maintenant parce que ce serait trop bousculant pour eux. Donc à un moment, nous le voyons bien, nous avons beau leur parler de Dieu ou de spiritualité, ça ne sert à rien dans l'état où elles sont parce que le temps n'est pas mûr. Mais rien n'est jamais fermé, on ne sait jamais ce que peut devenir une existence. Et tout d'un coup, nous avons vu des êtres bouleversés, traversés, changer totalement de vie. Donc ça, je crois personnellement que les forces de l'Esprit-Saint travaillent en permanence l'humanité dans le respect du temps de chacun pour l'amener là où il est appelé à devenir.
Bertrand Vergely, nous avons vu que Dieu, dès l'origine, souhaite communiquer avec l'homme en le créant, qu'il devienne un partenaire. Et j'aimerais qu'on en vienne à l'incarnation, parce que non seulement il crée l'homme, mais il va se faire tout proche, au plus proche de lui, en devenant l'un d'entre eux à travers l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dit saint Irénée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous?
Je crois que ça résume tout le programme de la vie chrétienne. Je pense que c'est quelque chose qui permet de comprendre toute l'histoire, tout le sens de la vie humaine. Nous apercevons que le propre de Dieu est d'être un Dieu vivant. Et le propre de Dieu, c'est de donner cette vie à un autre que lui au-delà de lui. Il donne cette vie à un autre lui à travers son Fils, lequel, comme le Père, est amené à s'effacer devant l'Esprit. Et il donne cette vie avec le Fils et l'Esprit, au-delà de la divine Trinité, en créant le monde et l'homme. Donc nous avons ici quelque chose de tout à fait étonnant. où Dieu crée l'homme afin que l'homme fasse naître Dieu en lui.
Ça, c'est magnifique. Et c'est ce qu'il va dire à Nicodème, Jésus notamment, il faut renaître d'eau et d'esprit. Donc, quelque part, ta vie est belle, mais tu dois l'accomplir dans la spiritualité.
Alors, je crois qu'il y a effectivement quelque chose ici qui est splendide. Hein. C'est ce devenir extraordinairement spirituel de l'homme. Le côté spirituel signifiant qu'à un moment, c'est à l'homme de jouer et de devenir créateur à l'intérieur de cette existence. Nous nous en apercevons dans le destin de l'homme. Petit à petit, celui-ci émerge. Et prenons une hypothèse évolutionniste. Eh bien, l'hypothèse évolutionniste montre que l'homme sort de la nature, que petit à petit il s'humanise et que petit à petit il rentre dans la conscience, dans la culture et va vers des niveaux de conscience et de culture de plus en plus élevés qui l'amènent vers des niveaux de ce qu'on pourrait appeler la supraconscience ou des niveaux de sainteté. Donc visiblement, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans le destin humain qui vérifie ce qui nous est dit par saint Irénée de Lyon et par les pères.
Oui, mais en même temps, l'homme contemporain aujourd'hui, il s'intéresse pas vraiment à Dieu. Il veut être tout puissant par la science, par son savoir, devenir immortel, mais il est plus du tout dans le dessein de Dieu. Enfin, il s'est détaché de ça.
C'est-à-dire que le paradoxe de l'homme contemporain, c'est qu'il s'intéresse à Dieu, mais qu'il s'intéresse à Dieu sans Dieu. Puisqu'il recherche la toute-puissance, il recherche l'immortalité, il recherche la plénitude, et qui sont des caractères divins. Le seul problème qu'il y a chez l'homme contemporain, c'est qu'il est persuadé que Dieu est son ennemi en ignorant que Dieu est son ami. Et donc il veut se débarrasser de Dieu. Et ce qui fait qu'il crée malheureusement pour lui une toute-puissance et une immortalité qui lui font du mal au lieu de lui faire du bien.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que en aspirant à l'immortalité, il y a quelque chose de bon là,
mais bien sûr.
Mais les moyens ne sont pas les bons.
Mais bien sûr, parce que nous apercevons que la vie toute puissante et immortelle que l'homme veut connaît, c'est une immortalité qu'il veut fabriquer. C'est une toute puissance qu'il veut fabriquer, au lieu de recevoir cette toute puissance et cette immortalité comme un don. Et donc il y a là véritablement une erreur qui se fait, c'est-à-dire il fabrique l'immortalité et la toute-puissance avec des moyens mortels, au lieu de recevoir les moyens immortels qui lui viendraient de Dieu. Donc c'est ça son erreur. Et nous apercevons que prisonnier de son ego, il souffre et il fait souffrir. Mais les choses se retournent, puisque à un moment, apercevant l'absurdité de ce qu'il est en train de fabriquer, en général, il change de vie et il revient à une forme de vie véritable où il participe, il communie à cette expérience, à cette dimension de toute puissance et d'immortalité au lieu de vouloir la fabriquer.
Bertrand Vergely, vous parliez du désir en l'homme d'immortalité, de puissance. Or, avec le Christ, on est là complètement, dans la vie terrestre, dans sa vie terrestre, on est là complètement loin de ces fantasmes de toute puissance et d'immortalité, puisque le Christ sur la croix, c'est pas vraiment la puissance dont on rêverait.
Au contraire, c'est la toute puissance, mais la véritable toute puissance telle que nous l'avons jamais imaginée.
Ah, expliquez-nous ça. Alors la croix toute puissante ?
Absolument. En quoi Dieu est-il tout puissant ? Dieu est tout puissant, non pas dans la mesure où il est un pouvoir qui écraserait tout, mais dans la mesure où Dieu est celui qui se libère de Dieu. Quel est l'homme libre à l'intérieur de notre monde ? Ce n'est pas l'homme qui a un moi, c'est l'homme qui s'est libéré de son moi. Et donc nous dirons que Dieu est Dieu parce qu'il se libère de Dieu pour tout donner en tant que Père au Fils et pour tout donner en tant que Dieu à l'homme et au monde. Et comment est-ce qu'il se libère de Dieu ? En apparaissant sous la forme, un, du nouveau-né, deuxièmement, d'un inconnu parmi les hommes, et troisièmement, du Christ glorieux sur la croix. Et nous apercevons que là, nous voyons quoi ? Nous voyons un Dieu qui se libère totalement de Dieu. Et tout ce que nous voyons à l'intérieur du monde, c'est une extraordinaire liberté de Dieu. Rendez-vous compte, pour apparaître sous la forme d'un petit enfant, puis pour apparaître à travers un homme parmi les hommes, puis pour être sur la croix, cet homme sur lequel on crache, il faut être complètement libéré de soi-même. C'est-à-dire que si Dieu se retenait pour se préserver, il ne serait pas Dieu. Et en ce sens, il est dans la toute-puissance spirituelle, la preuve que nous apprennent les expériences de la spiritualité à nous détacher totalement de nous-mêmes.
Donc Dieu perd son ego, Dieu fait voler en éclats toutes les images.
Il n'y a pas d'ego de Dieu. Et nous apercevons que le Christ est le prototype du Dieu qui s'est totalement libéré de Dieu. Pourquoi ? Puisque il est effectivement celui devant lequel Dieu s'efface pour qu'il apparaisse, mais il est lui-même celui qui s'efface totalement pour que l'Esprit apparaisse. C'est-à-dire pour que l'important étant le souffle créateur qui anime toute chose de l'intérieur et qui est au fond la quintessence, la manifestation de Dieu. L'Esprit de la transmission. L'Esprit, c'est-à-dire que Dieu se réalise dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est d'aller toujours au-delà de Dieu. Et le but, c'est qu'au fond, le Dieu vivant, sous la forme du Dieu qui va toujours au-delà de Dieu, qui est l'Esprit, se manifeste. Et nous avons, si vous voulez, pour moi, la Trinité chrétienne exprime derrière sa vision personnelle et toujours personnelle un extraordinaire dynamisme de vie.
Mais nous avons donc à nous convertir totalement à l'idée que nous nous faisons de Dieu pour marcher dans l'esprit.
Vous avez tout à fait raison. Et nous apercevons qu'il y a une première conversion, c'est d'abord admettre la présence d'un Dieu, mais surtout admettre que Dieu va au-delà de Dieu et que Dieu n'est pas simplement une entité isolée, toute puissante dans le ciel, mais cet être plein d'amour, qui s'efface devant le Fils et qui s'efface avec le Fils devant l'Esprit et qui s'efface avec le Fils et l'Esprit devant l'histoire et l'homme. Et là, nous sommes devant un extraordinaire dynamisme de liberté qui s'exprime dans notre histoire à travers le vide, par une logique à l'envers. Ce n'est pas que Dieu n'est pas celui qui cherche à acquérir des pouvoirs, mais c'est celui qui cherche à se libérer des pouvoirs. Bergson disait que le processus de la création, c'est un processus de programmation de la déprogrammation. Nous sommes programmés pour être déprogrammés. Eh bien, c'était tout à fait extraordinaire parce qu'il dit, dans des termes scientifiques de son époque, quelque chose qui correspond à la liberté de l'Esprit Saint. Dieu déprogramme Dieu. Et nous voyons que tout est déprogrammé pour pouvoir aller vers ce dynamisme de vie proprement étourdissant.
Saint Paul nous encourage à faire grandir en nous l'homme intérieur, la oui. femme intérieure.
Oui.
C'est l'Esprit en nous, justement, c'est cet Esprit
bien sûr.
Qui fait le travail.
Et bien sûr, étant donné que l'expérience intérieure consiste non pas à se recroqueviller par opposition avec la réalité, mais à tout vivre de l'intérieur, à laisser rentrer la réalité en nous et à rentrer en elle, à vivre, là encore, ce que Bergson appelle l'expérience de l'interpénétration, qui est une noce avec l'existence. Et du coup, nous connaissons à un moment l'expérience de la vie, ce n'est plus nous qui vivons, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, c'est lui qui vit en nous.
Et là aussi, nous avons du coup à nous perdre pour accueillir. C'est que des logiques d'accueil, finalement.
Ce sont des logiques d'accueil d'un autre en nous, plus profond que nous, qui vit en nous. Et qui, à un moment, est notre véritable nous. Donc ça, c'est cette expérience spirituelle tout à fait extraordinaire. Et le Christ est véritablement le prototype de cette expérience spirituelle parce qu'il s'efface devant Dieu, qui s'efface devant lui, et il s'efface également devant l'Esprit.
Qu'il donne à la Pentecôte.
Et voilà. Et qu'il redonne à la Pentecôte, à tous ses disciples, pour qu'eux-mêmes le donnent aux autres. Et qu'il fasse vivre dans l'histoire quelque chose qui relève de la méta-histoire. C'est-à-dire cette fontaine de vie qui émane de Dieu.
Et qui n'arrête pas de couler.
Et qui n'arrête pas de couler. C'est-à-dire, c'est véritablement ce qu'il dit à la Samaritaine. Je te donnerai à boire une eau dont tu n'auras plus jamais soif. C'est comme le buisson ardent qui brûle sans se consumer.
Bertrand Vergely, nous avons vu que dans le christianisme, la vie spirituelle se reçoit d'un Dieu qui se donne à travers le Père, le Fils. Nous avons parlé de la Trinité. Jésus frappe à la porte de notre cœur. C'est l'Apocalypse qui nous dit ça. Il souhaite venir s'entretenir avec chacun d'entre nous. Comment se fait-il que nous résistions au temps ou que nous refusions, tout simplement, cette rencontre ?
Ben, je pense que quelque part, c'est normal. C'est normal, pourquoi ? Parce que nous ne pouvons nous constituer qu'en résistant.
Résistance.
Oui, nous apercevons qu'un être humain peut grandir psychologiquement parce qu'il repousse le monde autour de lui, au lieu d'absorber le monde tel un buvard. Donc Sartre dit que grandir en tant qu'être humain, c'est faire la différence entre nous et le monde, et c'est d'être dans un rapport d'opposition au monde en disant « je ne suis pas cette chose, je ne suis pas cet autre, je suis moi ».
Mais c'est bon ?
Inévitable, indispensable. Ne voyons pas là quelque chose de négatif. Si l'être humain absorbait totalement le monde autour de lui, il serait mort, il ne pourrait pas survivre une minute.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il doit se constituer en tant que personne, avec ses limites, même corporelles.
Tout à fait. Et donc il y a un rapport, qui est un rapport d'affrontement entre l'homme et Dieu, mais un affrontement constitutif. Alors comment est-ce que cette expérience de Dieu se manifeste dans notre vie ? Elle se manifeste par la loi, elle se manifeste par la difficulté de l'existence, elle se manifeste par l'altérité.
Par la loi, vous voulez dire ?
La loi, qui est la loi du Père, au sens analytique du terme, qui est la loi morale. L'homme fait l'expérience de Dieu avec le fait que tout n'est pas possible, que les autres existent, et il ressent là quelque chose qui est extrêmement bénéfique à travers bien une expérience qui n'est pas toujours agréable au départ, mais qui est extrêmement structurante.
Bah, c'est l'expérience de la frustration, on ne peut pas tout faire.
C'est l'expérience de la limite qui va permettre la limite constitutive de moi-même et qui va me supprimer une liberté fantasmatique pour me permettre de m'ouvrir sur des relations réelles avec mes semblables. Donc, il faut bien voir que l'expérience de Dieu se transmet en nous à travers un amour caché. Et l'amour caché, c'est ce qui va s'opposer à nous et ce qui fait qu'également, nous allons nous opposer. C'est-à-dire, je crois qu'il y a, quand il est parlé dans la Bible à un moment, du combat de l'homme avec l'ange, c'est très important. C'est que Dieu nous parle à travers un combat. Et il y a énormément d'amour derrière ce combat. Il est exactement à notre égard comme un maître de musique qui voudrait nous apprendre l'excellence de la musique et qui est donc très exigeant avec nous-mêmes.
Donc, par exemple, les 10 paroles qui sont offertes au peuple à la sortie de l'Exode, c'est dur, difficile, mais c'est essentiel pour se construire.
C'est un programme magnifique, extraordinaire, où nous avons 5 paroles qui parlent positivement de la relation avec Dieu, dans lesquelles il est important d'être dans une relation unique avec un Dieu unique pour trouver l'unique qui est en nous-mêmes. Et d'autre part, c'est un programme avec l'homme qui est négatif et dans lequel il est dit à l'homme de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages, de ne pas convoiter, etc. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais de toute façon, il y a une exigence. Mais cette exigence nous rend tellement heureux quand on est capable de la vivre que du coup, nous oublions toute la difficulté de l'opposition et nous ressentons ici l'amour du Père. Si vous voulez, l'expérience de Dieu, c'est comme une course de montagne qui m'emmène dans les hauteurs. C'est dur, mais c'est bon. Et je ne m'en veux pas à Dieu d'avoir cette difficulté parce que c'est fondamentalement bon. Et il y a quelque chose qui me repousse dans la montagne, il y a quelque chose que je vais repousser, mais je vais me dépasser et je vais vivre ici quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est important. Le premier obstacle, c'est que nous avons souvent une vision infantile de Dieu qui serait un Dieu qui ne serait pas père, mais qui serait complètement maternel, mais qui ne serait même pas maternel, mais qui serait totalement déliquescent. et dans lesquels, effectivement, Dieu étant tout amour, il serait toute fusion avec nous-mêmes.
Mais il y a une tendance, on peut avoir cette tendance-là de régression dans Dieu.
Bien sûr. Et à ce moment-là, c'est une régression matricielle à Dieu et non pas une progression.
Donc vous insistez sur le côté paternel de Dieu.
Oui, et sur le côté ferme, fort, puissant. Nous voyons Adam ne supporte pas que Dieu lui demande de ne pas prendre de tous les fruits de l'arbre du paradis. Et à un moment, il ressent ça d'une manière totalement infantile. Il pensait que Dieu est fusionnel avec lui et il ne voit pas qu'il lui ait retiré quelque chose pour qu'on lui permette de s'épanouir et de rentrer dans l'accomplissement des temps. Je crois que, si vous voulez, je suis rendu compte que beaucoup de personnes qui sont athées ont rêvé Dieu et ne croient plus. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas le rêve qu'elles imaginaient. Elles imaginaient que Dieu est bon. C'est que Dieu n'est pas bon au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire une sorte de Dieu totalement imaginaire et déliquescent. Quand on pense que Dieu est bon, c'est à ce moment-là qu'on est furieux du mal qui existe sur terre et qu'on se révolte contre Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui sont athées, en général, vous le regarderez, ont pensé que Dieu était bon et sont révoltés devant l'existence du mal. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas de quoi il est question à propos du mal qui est sur terre. Le mal qui est sur terre ne vient pas de Dieu. Le mal sur terre vient de gens qui ont pensé que Dieu était bon et qui, déçus, se vengent à l'intérieur de l'existence. Donc le premier obstacle spirituel, il est là. Il est le fait de rencontrer le véritable Dieu et qui est un Dieu difficile. Un Dieu éprouvant, mais un Dieu qui nous donne des réserves d'amour et de véritable bonté derrière une fermeté spirituelle.